attention, les voilà.
Bienvenue sur Micro-ondes 94, l'émission des syndicats de la CNT du Val-de-Marne.
Le gouvernement a le devoir de maintenir la paix publique et de protéger tous les citoyens sans exception contre les excès et la subversion.
Les provocations de quelques agitateurs professionnels.
Si les CRS n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu d'émeute. Ils seraient partis ce matin au petit jour manger leur café au lait.
Grandes idées n'ont pas en vain combattu et les périls contre les richards et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris. Nous lancerons la vengeance puissante et nous serons à tout jamais victorieux. Aux frères, aux armes pour notre vie.
Bonjour, Radio Libertaire 89.4, Micro-ondes 94, l'émission de la CNT du Val-de-Marne. Alors aujourd'hui au programme, nous avons quatre chapitres. Tout d'abord, un entretien avec Samy, elle nous racontera sa vie professionnelle, disons. Ensuite, on fera un petit tour des activités de la CNT 94 dans ce département du Val-de-Marne. Ensuite, nous aurons un chapitre cinéma et théâtre. Et pour finir, des livres à présenter. Mais on commence par un peu de musique.
Signe du temps, signe du sang, triste
estamos forjando un futuro. Y latinoamericano sigue adelante, adelante. Y el pueblo grita presente, presente. A los caídos tierra brava,
el pueblo de cobre
y se vende, y se rinde, y se vende, y se rinde
a todos los anónimos,
a todas las banderas libres,
muertes fértiles por la nueva América.
Nuestra América, nuestra América.
¡Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación!
¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! ¡Fuera Yankees! ¡Viva Latinoamérica!
Bonjour Samy.
Bonjour.
Voilà, pour aller vite, on va dire que tu travailles dans l'aérien.
Absolument.
Par le temps qu'il fait, c'est agréable. Ce qui l'est moins, c'est la manière dont sont traitées les femmes en général, et toi en particulier. Et donc tu peux témoigner de ce qui se passe dans ces entreprises que l'on a souvent tendance à considérer comme d'élite.
Absolument.
Alors.
Effectivement, ce sont des grosses entreprises qu'on considère justement comme des entreprises d'élite et qui justement cachent aussi leurs secrets. Donc moi, je dénonce aujourd'hui au nom de toutes les femmes et même des hommes, hein, parce que l'harcèlement est universel. Et effectivement, derrière cette vitrine toute belle et toute dorée, il y a un patronat et il y a un management qui fait qu'on n'est que des matricules et que malgré tout, à partir du moment où on nous fournit un salaire, ce patronat est libre de tous les agissements et où se couvre mutuellement se couvre, parce qu'on a beau justement dénoncer pour le peu de personnes qui dénoncent, que beaucoup ont peur de perdre leur travail car ils ont des responsabilités, ils ont peur aussi, il y a une certaine emprise psychologique qui est réel. Donc quand on prend en otage le cerveau de quelqu'un, on normalise les faits et gestes, et quand on souligne c'est pas normal d'être insulté, c'est pas normal d'être agressé, c'est pas normal c'est pas normal de vivre avec la peur de perdre son travail pour ces raisons-là, surtout quand le travail est bien fait. Donc effectivement, derrière ces grosses sociétés se cachent beaucoup de, je vais pas dire de drame, mais beaucoup de secrets enfouis.
Et au minimum, du malheur pour les gens, quoi.
Oui, ce sont des grands malheurs, parce que c'est des malheurs qui entraînent aussi des conséquences physiques et morales, psychologiques, et des conséquences aussi personnelles. Parce que quand vous allez au travail le matin pour votre famille, ou peu importe, hein, mais que vous y allez la boule au ventre, et que parce que vous savez qu'il y a certains agissements qui, malgré vous, dénoncer, même si ces affaires, ces histoires sont portées juridiquement devant des tribunaux ou devant la justice, que rien ne soit fait, effectivement, c'est une double peine pour la personne. Pour ces femmes-là, il y a eu des faits qui ont été dénoncés par des journalistes quand même, par des personnes. Il y a eu des reportages qui ont été portés jusqu'à la télévision et sur les réseaux sociaux.
Quoi, par exemple ?
Alors, il y a des hôtesses de l'air qui dénoncent depuis des années. En fait, ça, c'est un secret vieux comme le monde, hein, qu'elles se font excusez-moi du terme, mais tripoter et tout ça. Donc, mais ça reste du harcèlement sexuel. Et on a tellement normalisé que ben, le pilote peut passer, glisser sa main ou les blagues un peu, pas un peu, mais c'est totalement sexiste ou déplacé, que c'en est devenu normal de passer derrière elle, de la caresser. Et puis, ben, puis elle sourit parce que, ben, elle sourit pas parce que ça lui plaît, elle sourit parce que elle a peur et que, ben, elle peut plus rien dire. Donc, du coup, parce que, et surtout quand elle le dénonce, et ben, on est muselé, en fait. Voilà. On nous dit de nous taire. On nous force à nous taire. Mmh. Parce que vous pouvez les choses sont signalées, les choses sont dénoncées, les personnes sont avisées le plus haut possible, mais c'est un secret de polichinelle, donc il faut, on doit juste subir.
Oui, c'est, en fait, ça répond à la forme d'organisation du travail, dans cette espèce de système pyramidal qui fait que quand on est en haut, eh bien, on est en gros à l'abri. L'entreprise est une forme de monarchie dont le patron est le roi, puis après, il a ses roitelets, et ses princes, etc.
Tout à fait.
Et bon, dans l'aérien, bah, on sait bien le statut très particulier qu'ont les pilotes. Il n'y a pas que le statut, il y a le salaire aussi, qui est
absolument
très particulier.
Oui.
Évidemment, et quand on n'est pas dans cette sphère-là, quand on est soumis à cette forme de hiérarchie, ben on en souffre les conséquences. Tu pourrais expliquer un peu comment ça se passe quand on dénonce un fait comme ça? Quel est le mécanisme qui se met en route?
Il n'y a aucun mécanisme qui se met en route, malheureusement, parce qu'à partir du moment où vous le dénoncez, déjà, on vous écoute, on vous dit oui, effectivement, oui, c'est pas normal, donc on vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Et après, vous attendez, on vous dit on va venir vers vous, puis on vient pas vers vous, puis vous relancez. Puis après, après plusieurs mois, quand on vous met à l'écart, du coup, c'est votre santé qui prend assez cher. Puis vous continuez parce que les plus téméraires et courageux continuent le combat et les autres abandonnent ou tombent sombres dans la dépression. Il n'y a pas d'autre mot. Surtout qu'on vit une époque où il y a quand même un gros mouvement MeToo qui a quand même élevé un certain nombre de voix de femmes mondialement. Donc on se dit, avec ce phénomène, on se dit, enfin, on va nous écouter, enfin, on va nous entendre. Et en fait, vous alertez, on vous dit, puis quand vous allez voir la police, on dit, est-ce que vous avez alerté les syndicats? Oui, les syndicats ont fait les nécessaires, les syndicats ont envoyé des mails, les syndicats écrivent aux personnes concernées. Tout est fait, tout est même trop, en fait. On a l'impression de supplier, de quémander, ne serait-ce qu'une reconnaissance. Je ne parlerai même pas de justice. Juste une reconnaissance, oui, effectivement, ce que vous subissez n'est pas normal. Ce que cette personne-là, ou ce système, ou ce service n'est pas normal. De se faire crier dessus au travail, c'est pas normal. De se faire humilier, c'est pas normal. De se faire toucher, c'est pas normal. On inculque à nos enfants la notion de consentement. Mais je pense qu'il faudrait l'inculquer aussi à certains adultes qui comprennent qu'effectivement, à partir du moment où une personne n'accepte pas une situation, c'est qu'elle n'est pas consentante et c'est que c'est pas normal. Donc,
Alors, mais ça, c'est l'autre versant. C'est-à-dire, ce qui est fou, c'est qu'il y a reconnaissance de faits qui ne sont pas normaux, qui sont inacceptables, etc. Mais ça s'arrête là, quoi. Tout est au niveau du discours. Aucune action réelle n'est menée derrière.
Là, on parle de reconnaissance. S'il y a reconnaissance, parce que ce sont souvent des alertes ou des emails qui sont lancés dans le vide. Donc, les personnes le savent, l'entendent, mais les personnes répondent à côté ou ignorent tout simplement. Donc, tout en connaissance de cause, parce qu'on parle de connaissance de cause, les agissements sont poursuivis, mais surtout protégés. Donc, c'est encore plus grave. Parce que s'il y avait une reconnaissance, je pense que l'humain a besoin d'une certaine justice, quelle qu'elle soit. Ne serait-ce que dire, oui, je comprends, je sais ce que tu vis, c'est pas normal. Effectivement, ce serait déjà une grande victoire. Mais non, en fait, on estime que... non. Si vous n'êtes pas content, vous partez.
C'est ça.
On vous pousse vers la sortie, on ne vous licenciera jamais. On vous pousse à la sortie. On vous pousse à la sortie par quoi? Par votre santé, par la poursuite du harcèlement. Donc, et puis, c'est malheureusement, à un moment donné, on a un certain pouvoir qu'on se sent même au-delà, au plus fort et au-dessus de la justice. Et ces personnes-là, malheureusement, savent que justement, la justice est très longue.
Et il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de gens qui partent, etc. Il y a beaucoup de gens qui cèdent, en fait, devant cette situation.
Oui, il y en a. Il y en a pas mal qui partent, sans forcément donner ces raisons-là. Elles sont connues en interne, mais bon... ouvertement, on va signaler d'autres choses. Elle a eu une promotion, il a eu une promotion. Elle va vers de nouvelles aventures. Mais effectivement, il y a beaucoup de turnover, surtout que ce sont de très grosses sociétés qui délèguent à des filiales ou autres. Donc c'est quelque chose qui est... Et quand on délègue à des filiales, on embauche plus, on paye moins, on produit plus.
Et on dilue les responsabilités. Absolument. On ne sait plus qui prend les décisions.
Voilà. Et donc, du coup, les managers sont aussi soumis à un certain stress. Et on en demande beaucoup plus. Et donc, du coup, le harcèlement devient une forme de dialogue, une forme de communication. C'est normalisé, en fait. C'est même pas quelque chose de différent. C'est de se faire mal parler, de totalement normal.
On va faire une pause et on revient.
Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains. Alors que toutes les 8 secondes, se génèrent des profits immondes chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de pièce au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Secondes, un nouveau cancer qui nous ronge, ou qui devient marchandise à que tu qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient, payent des pinottes pour le produit et comme ils sont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. On nous met devant les faits accomplis, ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se sont appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, peut-être qu'ils en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Quand il ne restera que 8 secondes avant la fin de ce monde, on repensera au genre humain qui, à cause de la faute du gain, aura amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes. Encore plus de colère qui monte quand je vois mon grand pays d'eau être mis à sac par des salauds qui souhaitent la vie assis dans leur tour à bureau. Dans ce Québec de forêt d'en bleu, ces richesses doivent devenir des enjeux. Portons les fesses des décideurs et devenons des précurseurs citoyens. L'avenir commence à se tordre. We'll be right back.
Après un petit tour avec les Cowboys fringants, Radio Libertaire 89.4, micro-ondes 94, l'émission de la CNT du Val-de-Marne. Nous allons poursuivre cet entretien avec Samy, qui nous a montré un panorama bien lamentable dans ces entreprises de l'aérien. Maintenant, ce qui est clair, ce que tu as dit, c'est que les salariés sont isolés et soumis à toute une hiérarchie qui fait ce qu'elle veut, quoi. Alors, quelle issue tu verrais à cette situation ?
La seule issue serait la solidarité. Ce serait que, justement, comme on dit, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, il faudrait que les voix s'élèvent et continuent de s'élever, et surtout une entraide, parce que une seule personne contre une grosse machine comme ça, c'est sûr, c'est comme un bulldozer face à une petite voiture, hein, il l'écrabouille. Mais alors que si on est plusieurs, et ben, on pourra faire barrage. Et je dis pas que ça changera les choses. Les choses ne changeront peut-être jamais, mais en tout cas, on pourra les faire évoluer. Je pense qu'on a tous en mémoire ce type de harcèlement à l'époque avec Orange, où il y avait une vague de suicides. On se demandait, mais les gens, si une personne vient en suicide, c'est qu'elle est dans un état de détresse pas possible, au point de vouloir abandonner sa famille, sa vie, pour du travail. C'est quand même... on travaille pour vivre, hein, on vit pas pour travailler, donc c'est très très grave. Donc ce que je conseillerais, dans un monde meilleur, c'est que tout le monde puisse s'élever et qu'on puisse s'entraider les uns les autres et avancer, faire bouger les choses. Parce que je pense que si ces patronats, justement, savent que justement il y a une certaine solidarité, ils seront moins à l'aise avec l'idée de faire ce qu'ils veulent.
En tout cas, moins arrogant, quoi.
Absolument.
Oui. Parce que, en fait, c'est autour de ça que tournent les problèmes. Quand on est seul, ça devient tout de suite des problèmes financiers, des problèmes psychologiques, tu le disais.
Oui.
Et on entre dans une chaîne d'événements et de comportements qui, finalement, nous isolent encore davantage, quoi. Et donc, quasiment sans issue. Comment fonctionnent les syndicats dans ce genre d'entreprise ?
Ben, les syndicats sont vraiment très actifs. Hein. Ils ont, voilà, les petits syndicats sont souvent, comme on dit, les plus grognons. Mais c'est pour ça qu'on dit que la vérité dérange. Et c'est souvent les petits syndicats qui disent la vérité, qui font les choses qui dérangent. Mais les syndicats sont actifs, justement. Heureusement, d'ailleurs, les syndicats agissent. Ce sont des hommes et des femmes qui se battent pour le droit de tout le monde, qui défendent. Mais s'ils sont tout seuls et si les gens ne s'élèvent pas, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, du coup, on les prend juste pour des grands fous.
Oui, oui. C'est un peu comme... Oui, le syndicat est souvent pris par les salariés comme une sécurité sociale, quoi. C'est bon, c'est les syndicats qui s'en occuperont, mais les syndicats, ce sont les syndiqués. Si les gens qui travaillent dans l'entreprise ne prennent pas en main leurs affaires, syndicats ou pas,
rien ne changera.
Rien ne changera.
Ce ne sont pas des magiciens, ce sont des hommes et des femmes comme tout le monde, hein. Ce sont des êtres humains qui font avec ce qu'ils ont, avec les armes qu'ils ont. Mais si on leur donne pas, voilà, ils essaient. Après, on va avoir les syndicats pour des choses futiles, mais il y a des choses beaucoup plus sérieuses et ils sont là, ils feront pas de miracles, mais avec leur voix et avec leur, en tout cas du moins en passant par eux, ben on peut élever les choses et ça pourrait aller beaucoup plus loin et ça pourrait aller beaucoup plus vite. Je dis pas que ça cassera la muraille, mais en tout cas ça pourra la fissurer et on prendra les choses un peu plus au sérieux.
Et les services sociaux, etc., la sécurité sociale et tout ça, elle ne se préoccupe pas.
Absolument pas. Part du principe où, encore une fois, vous tombez sur des humains au téléphone, donc ce sont des gens, et ben, ils sont pas d'accord avec ce que vous leur racontez, ils vous soutiennent même, hein, mais techniquement, ils ne peuvent rien faire, donc part du principe. Voilà, encore une fois, et puis surtout quand on se retrouve face à des gros poissons, comme on. Bah, voilà, hein. La question ne se pose pas, c'est pour ça que les gros procès comme ça mettent des années, mais à la fin, il y a toujours une victoire. Ça prend des années, mais ça prend des années pourquoi ? Parce que finalement, il y a des voix qui s'élèvent au fur et à mesure, et les gens finalement se rendent compte que bah, ils peuvent plus vivre comme ça, que finalement ça a laissé des blessures beaucoup plus profondes chez eux, parce qu'on minimise trop la dépression. On a trop normalisé certaines choses, et alors qu'il y a des signes de la dépression qui sont déjà là, mais on s'en rend pas compte. Et puis au bout d'un moment, au bout de 10-15 ans, on se rend compte, mais non, en fait, je dors pas bien depuis tant d'années, je suis très nerveux, mais tout est lié en fait. Hein. Tout est lié, je m'énerve un peu plus sur mes proches, j'ai plus de patience, mais c'est le travail qui cause ça. Et en plus de ça, on a tous nos problèmes personnels, donc le travail n'est pas censé être un problème. Le travail, oui.
Tu parlais des gros poissons. Il y a une affiche de la CNT qui est très connue, où il y a un gros poisson qui dévore plein de petits poissons dispersés.
Oui.
Et le revers de cette médaille, c'est que si les petits poissons s'organisent, c'est eux qui peuvent bouffer le gros poisson.
Oui, parce qu'à la fin, ils sont nombreux, et c'est l'union qui fait la force.
Voilà. Ouais. Merci, Samy.
Je t'en prie.
Et bonne continuation.
Merci pour tout. Merci de m'avoir reçu.
Si petite soit la mienne de paye, j'en ai besoin pour bouffer. Je fais des trous dans ma ceinture, un par jour pour mieux gérer le minimum que cette enflure se croit obligée de me céder. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qu'auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Je le croise devant l'usine, dans sa belle BMW, dans sa Porsche ou bien son Alpine, suivant ce qui l'a motivé. Moi je garde mon vélo depuis qu'ils ont décidé, afin de relancer le marché de l'auto, d'interdire aux poubelles de rouler. Il a les fringues toujours impec, les mains propres et jamais tachées. Moi mes paluches je bosse avec, et mes neurones sont élimés. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qu'auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Il a des potes en politique, des plantes grasses à arroser, de celles qui jamais ne lui piqueront le cœur de son chéquier. Ils ont le cumul sympathique de maire et de député, ils ont la morale cathodique et le chômage suranné. Peu importe l'ascenseur qu'ils aiment à se renvoyer, peu importe, puisque l'erreur, c'est qu'on est trop dans l'escalier. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qu'auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Combien de temps encore va-t-on se laisser faire? Combien de temps encore sans rien faire?
Y'en a qui sont jamais dans la merde, y'en a qui n'ont jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent.
sont ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent.
Radio Libertaire, micro-ondes 94, l'émission de la CNT du Val-de-Marne. Et maintenant, on va faire un petit tour des activités de la CNT, précisément dans le Val-de-Marne. Alors, on va commencer par une activité qui est toute fraîche, puisqu'elle s'est terminée il y a 2 ou 3 heures. Il s'est créé, a choisi le roi, depuis déjà longtemps, une association de solidarité avec la Palestine. Et c'est cette association qui, au vu de la guerre de Gaza, a pris l'initiative de rassembler des organisations locales de Choisy-le-Roi pour apporter une aide, alors extrêmement modeste, aux Gazaouis, mais, et en même temps, informer la population de cette la population locale de cette situation. Alors la situation à Gaza, on la connaît, c'est pas la peine de revenir dessus sur cette antenne. Mais autour de cette association, eh bien, se sont regroupés quelques syndicats, la CGT, la CNT, Sud a l'air un peu intéressé mais est peu présent, quelques partis politiques, quelques autres associations, la Ligue des droits de l'homme, etc. Et puis, ça donne un collectif qui a pris des initiatives. Alors, cette toute dernière initiative, c'est de faire, ce dimanche matin, un village solidaire sur la place Jean Jaurès, là où se déroule le marché de Choisy-le-Roi, un marché qui est un des plus grands de la région parisienne. Et donc, un marché très coloré, bigarré, mélangé, il y a toutes sortes de gens venus de toutes sortes de pays, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, beaucoup moins du Nord, bien entendu, mais un grand marché. Et là, eh bien, il y a des prises de parole, des distributions de tracts d'information, etc. Les gens viennent, achètent de l'huile de Palestine, et surtout donnent de l'argent. Alors cet argent, comment circule-t-il? Eh bien, il circule par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Palmed, qui est une association de médecins palestiniens vivant en Europe. C'est des émigrés, en quelque sorte, et eux, qui ont des contacts avec les médecins palestiniens de Palestine, collectent l'argent et le leur font parvenir par des canaux sur lesquels nous n'avons pas la main et nous ne cherchons pas à l'avoir non plus. Et donc, ça crée tout un mouvement très, très intéressant. Alors aujourd'hui, c'était un village, il y avait deux barnums, des parasols, etc., des tables, les gens viennent, achètent des livres, échangent, ou de l'huile, etc. C'est extrêmement sympathique, ça dure 2 heures, et c'est pas un grand événement, mais ça met ce problème dramatique de Gaza à hauteur des gens. Et on donne la possibilité aux gens, non pas de suivre une manifestation, etc., mais même d'apporter 2 euros, 5 euros, 10 euros pour aider. Alors, ce n'est, et loin de là, pas la première initiative, bien sûr. Ça avait commencé par un autre village en faisant venir sur cette même place, un samedi après-midi, quelques personnalités extrêmement diverses, avec BDS, par exemple, campagne de boycott aux produits israéliens, etc., etc. Et puis, il y a eu une manifestation le 10 mai de cette année, et qu'une association comme ça pour Gaza réussisse à réunir 600 personnes à Choisy le Roi pour faire une longue déambulation vers Orly, c'est quand même un peu insolite. Et ça, c'est très positif. Ce ne sont pas des grandes mobilisations sur lesquelles on n'a pas la main. C'est même tout le contraire. Ce sont des petites mobilisations locales qui font que les organisations qui sont parties prenantes, et donc aussi bien la CNT que le Parti communiste ou que la Ligue des droits de l'homme, eh bien, sont en contact avec la population, sont présents parmi la population. Ils n'apportent pas un message venu d'en haut, mais ils échangent avec les habitants de la ville. C'est une conception localiste des choses, peut-être, mais qui nous semble assez intéressante. Radio Libertaire, micro-ondes 94, l'émission de la CNT du Val-de-Marne. Alors, on a parlé de Gaza, et là, on va parler de la Poste. De la Poste et des postiers du 92 qui sont passés en jugement il y a peu. Ce sont des syndicalistes de Sud-PTT, essentiellement, qui, à la suite d'une très longue grève qu'il y a eu dans le 92, ont été jugés, et pour un motif qui est assez étonnant, ils sont allés au siège de leur entreprise, en tant que salariés, et on leur a dit que c'était des violences, et surtout que c'était une violation de domicile. C'est quand même assez fort. Alors que, par exemple, il y a la cantine des PTT dans ces locaux, y entrer, quand on est postier, ce serait une violation de domicile. C'est fort. Alors, le syndicat Sud-PTT a fait une mobilisation assez importante, et pour notre part, nous en avons eu un écho, puisque à la Bourse du Travail de Villejuif a été projeté un film dont le titre est « Grévons », qui fait un survol de cette très longue grève, et on voit là les militants qui vont être jugés, et qui ont été jugés, eh bien, expliquer dans les centres de tri le pourquoi de leur lutte, de leur raison, de pourquoi le démantèlement de ce service public au profit du privé. Alors, ils sont passés au tribunal de grande instance le 12 juin, et c'est donc quelques jours auparavant, le 10, je crois, ou le 8, je ne sais plus, où on a vu le film dans le Val-de-Marne. Alors, le film en lui-même est intéressant, parce que ça montre l'action syndicale dans une entreprise. Mais il se limite un petit peu à des discours, à une forme de véhémence, à une forme de syndicalisme à l'arrache, quoi, si on veut. Mais le film a été présenté à la Bourse du Travail de Villejuif par deux postiers de base. Enfin, plus exactement, un postier et une postière. Et là, les choses sont très différentes. On a un contact direct avec quelqu'un qui s'explique sur ses conditions de travail, sur précisément ce dont on parlait tout à l'heure, sur la nécessaire solidarité, sur l'action collective, etc. C'était absolument passionnant. Et c'était même si passionnant que c'était le but recherché. Eh bien, la CNT a également été présente au rassemblement le jour du procès au tribunal de grande instance de Paris, le 12 juin. Elle a été présente avec le journal de la fédération CNT-PTT, Le Bras Zéro, qui parlait de cette affaire et d'une autre, du même type, qui a lieu, elle, dans le 66, dans les Pyrénées-Orientales, où là, c'était un militant de la CGT qui est poursuivi et qui va encore devoir être défendu par une action collective. Alors le Bras Zéro, ce bulletin de la fédération CNT-PTT est assez intéressant aussi parce que il y a en page centrale l'interview d'un syndicaliste de la CGT espagnole qui se bat contre les différents accords, un accord cadre, disent-ils, qui consiste, là encore, à exploiter davantage les salariés et à démanteler le service public. Mais il y a, dans cette double page, quelque chose de passionnant, quand même. Il y a une photographie du congrès de la Fédération de la Poste, Correos se dit en Espagne, des commissions ouvrières, qui est un des deux grands syndicats institutionnels en Espagne. Et ce qui est fort, c'est qu'à ce congrès du syndicat, on a invité le patron de la Poste espagnole. C'est-à-dire, on fait venir le patron, et là, il est en train de s'exprimer devant ses salariés, il leur sert leur salade. C'est absolument effarant, effarant.
La fiche de paye, tu tiens dans la main les heures de ta vie au bulletin de salaire où s'affiche le coût d'une heure d'ouvrière, d'un travail au rendement où s'écrit le destin. Arrête un peu là, t'y accrocher comme une bête blessée, lèche son collier de peur de perdre son nom, l'a marqué. Le voilà qui s'efface au bas du papier. Aujourd'hui, tu le sais, ton usine va fermer. Il n'y a plus d'ouvriers, ils n'ont plus de parti. Ils regardent la télé à chaque 1er mai. Quand les fils de Franco défilent à Paris. Mais ne dis pas pour autant que tu n'es plus bonne à rien. Griffe plus ton cou, laisse donc là tes mains. Ma noblesse ouvrière au titre de piqueuse, couturière de velours au tissu de satin. Et arrête de me dire que tu préfères crever plutôt que d'avoir un mi-temps de ménage, de changer en boniche ou en femme au foyer ton métier qui n'a plus que des temps de chômage. Aujourd'hui, tu le sais, ton usine va fermer. Il n'y a plus d'ouvriers, ils n'ont plus de parti. Ils fréquentent à genoux les églises, les mosquées, quand les fils de Franco défilent à Paris. Je sais que tu n'es pas de ces femmes pondeuses qui demandent à leur Jules une place de couveuse et qui n'ont de métier que des enfants élevés. Là, le nom d'un mari ou un voile à porter. Tu es de celles qui se lèvent pour partir travailler le matin pour gagner le SMIC et s'acheter cet orgueil de payer de leur nom la signée, le livre qu'à leur fils elles offrent en mai. Aujourd'hui, tu le sais, ton usine va fermer. Il n'y a plus d'ouvriers, ils n'ont plus de parti, ni de poètes pour gueuler à chaque 1er mai quand les fils de Franco défilent à Paris.
Radio Libertaire, micro-ondes 94, l'émission de la CNT du Val-de-Marne. Alors, une dernière petite information sur ce qui se passe dans le Val-de-Marne pour la CNT. Eh bien, c'est créé dans le Val-de-Marne une association Visa, dont la CNT est partie prenante. Il s'agit d'être vigilant vis-à-vis de cette montée de l'extrême droite, et pour dire les choses ouvertement, cette montée du fascisme que l'on constate. Alors, puisqu'on en a l'occasion, on peut faire un petit détour là par un événement qui a occupé les antennes durant très longtemps. C'est le changement de pape. Le changement de pape avec l'arrivée au pouvoir de Léon XIV doit éveiller une certaine vigilance, effectivement. Parce que Léon XIV, c'est quelqu'un qui arrive après Léon XIII. Et Léon XIII, c'est un pape du XIXe siècle que l'on connaît et qui a joué un rôle énorme. Le 19e siècle, c'est l'émergence du socialisme dans ses très grandes généralités, dans toutes ses tendances, dans tous ses courants réformistes, révolutionnaires, communistes, anarchistes, etc. Ce socialisme, il met en avant le fait que il y a des classes sociales et qu'il y a des patrons et puis il y a des ouvriers. Et évidemment, ces idées socialistes ont un énorme succès. Et l'Église, qui veut garder ses ouailles, se doit de répondre à ce succès des idées socialistes. Et c'est le pape Léon XIII qui, en 1891, par une encyclique qui s'appelle « Rerum Novarum », « Les choses nouvelles », paraît-il, va s'en occuper. Et il va s'en occuper de la manière suivante. Il va dire « mais oui, c'est bien de s'occuper du sort des salariés », mais il ajoute, et c'est l'idée essentielle, « il doit y avoir une complémentarité entre le travail et le capital, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une collaboration honnête entre travail et capital ». Et cette idéologie-là, cette idée-là, c'est celle que vont récupérer les fascistes, d'abord en Italie, pour dire que les syndicats, eh bien, ils ne doivent pas être comme ceci, comme ils sont à l'époque, c'est-à-dire ils ne doivent pas rassembler les salariés, les syndicats selon leur conception, et que l'on va retrouver en Italie, en Allemagne et dans l'Espagne de Franco, les syndicats doivent rassembler ensemble les patrons et les ouvriers. Tous sont des producteurs, tous gentils, et on fait avec ça un équilibre. Jean-Paul II, le gauchiste bien connu, 100 ans après Rerum Novarum, eh bien, a lui bien précisé les choses. Ce qui est condamné dans Rerum Novarum, dit-il, c'est la lutte des classes. Eh bien, on y est. Et en se faisant appeler Léon XIV, il faut craindre que le pape ne verse très largement dans cette direction-là. Et là, on va faire encore une petite pause pour passer à autre chose.
Nocchino, maher nocchino, di gras flago e pro la malesper.
Yeah.
Arter, 89.4, micro-ondes 94, l'émission de la CNT du Val-de-Marne. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu au cinéma et au théâtre, et cinéma et au théâtre consacré beaucoup, très largement, exclusivement d'ailleurs, à l'Espagne et à ses problèmes de mémoire. Alors, on va commencer par le cinéma, puisque vient de sortir un film de Frédéric Goldbraun, Hommage à la Catalogne. Alors, il s'agit d'un film documentaire qui a une particularité, une singularité en tout cas, c'est que c'est un documentaire qui parle donc de la guerre d'Espagne telle que l'a vue le romancier, essayiste, penseur George Orwell entre décembre 1936 et juin 1937. Le film, le documentaire, est monté à partir de textes de George Orwell, du livre éponyme « Hommage à la Catalogne ». Il n'y a que du texte de George Orwell. Il n'y a aucun autre commentaire, il n'y a aucune voix off. Et à la limite, on pourrait dire qu'il n'y a même pratiquement aucun son autre que le texte de George Orwell et une musique créée pour ce film. Maintenant, donc, quelles images? Eh bien, les images, ce sont pour l'essentiel des films tournés en 1936-37 par la CNT à Barcelone et sur le front d'Aragon, qui sont les deux lieux qu'a visité George Orwell. Le film dure 70 minutes et il faut dire que c'est une réussite complète. Réussite complète parce que, pour une part, George Orwell est peut-être le témoin le plus aigu, le plus intelligent des événements qui se sont déroulés à l'époque, dans toute leur complexité, et pas seulement dans les stéréotypes véhiculés, et d'autre part parce que on évite ainsi le discours véhément, militant et quelquefois un peu pesant des documentaires habituels. Une réussite vraiment complète, avec des moments drôles, des moments tragiques, mais un film vraiment très très réussi. Hommage à la Catalogne, film documentaire de Frédéric Goldbraun. Alors, il a été présenté le 19 juin à la SCAM, qui est le lieu, la société des auteurs bis pour ce genre de production. Et il a été présenté avec, précédé par un autre film de 40 minutes, celui-là, de Frédéric Goldbraun, qui s'appelle Diego. Diego, c'est Diego Camacho, qu'on connaît davantage sous son nom de plume, Abel Paz. Et c'est là aussi un petit reportage, un petit documentaire qui est très sympathiquement fait. Ça se passe dans un bar de Barcelone, du quartier de Gracia, un petit bar. Et là, Diego Camacho, Abel Paz, qui est déjà vieux, eh bien, est assis à une table de bar et il a des photos personnelles et quelques autres que lui a proposées Frédéric Goldbraun. Et tout se passe Là encore, il n'y a aucune voix extérieure, il y a simplement les photos et le commentaire que suscite chez Diego la vue de ces photos. Et donc, c'est encore l'absence de discours extérieur qui fait la singularité de ce film, même si il fonctionne exactement à l'envers, puisque pour Hommage à la Catalogne, Frédéric Goldbraun a choisi un texte de George Orwell et il a fallu ensuite se débrouiller pour trouver les images qui y correspondent. Dans Diego, eh bien, c'est des images qui sont imposées et Diego Camacho qui fait le commentaire. Alors, ce n'est pas un film historique, c'est-à-dire que les faits tels que ce que raconte Diego Camacho, ce n'est pas l'histoire. Ce que raconte Diego Camacho, c'est simplement ce moment très court, très bref, ce que on a appelé le bref été de l'anarchie, c'est-à-dire un moment où le peuple, les gens du bas de l'échelle sociale prennent leurs affaires en main et vivent une période exaltante. Et c'est cette exaltation que transmet le très vieux, très âgé Diego dans ce film. Il faut savoir que Diego était très très jeune au moment de la Révolution, mais qu'il a participé à certains événements, qu'il est parti en exil et a connu les camps de concentration, puis est retourné dans la clandestinité en Espagne, où il a été arrêté et où il a passé une pile d'années en prison. Mais ce qui est formidable chez ces générations-là, c'est que ces années de prison-là ne les ont pas accablés, ne les ont pas abattus. Et là, il a peut-être 75 ou 80 ans dans le film Diego, mais il n'empêche, il est toujours combatif, il a toujours les mêmes convictions, et jamais, il est mort sans céder, quoi. C'est ça qui fait la force de cette histoire et de ce film. Donc deux films remarquables de Frédéric Goldbraun, l'un de 1999, Diego, et l'autre de 2025, Hommage à la Catalogne. Et on va maintenant passer une petite musique. We'll be right back.
combatiente, los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT!
Radio Libertaire, 89.4, micro-ondes 94, l'émission de la CNT du Val-de-Marne. Alors ce qu'illustrait cette plage musicale, cette révolution dont George Orwell a été témoin et dont il a rendu compte dans Hommage à la Catalogne, eh bien le problème, c'est que en Espagne, cette aventure est largement oubliée. Elle est oubliée, elle est cachée, elle est dénaturée. Et au Théâtre de la Ville, dans le cadre des Chantiers d'Europe, ont eu lieu deux représentations d'une œuvre qui porte comme titre espagnol « El pacto del olvido », le pacte de l'oubli. Il s'agit d'une œuvre de Sergi Casero Nieto, un jeune espagnol né à Barcelone, un jeune catalan d'aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? En novembre 75, Franco meurt, c'est la fin d'une dictature de 40 ans. C'est un événement considérable. Et l'Espagne va passer, non sans quelques soubresauts, et non sans quelques violences. On dit souvent que ça s'est fait sans violence. C'est pas vrai. Il y a eu pas mal de morts dans cette période. Mais ce qui est clair, c'est que le régime dictatorial a décidé, à ce moment-là, des tenants du régime dictatorial, des gens de l'appareil franquiste, ont décidé qu'il fallait changer de programme et passer à une forme de démocratie. C'est ce que l'on a appelé la transition. Cette transition, elle a une date fondatrice qui est le 6 décembre 1978. Ce jour-là, une monarchie parlementaire est créée en Espagne avec une nouvelle constitution qui a été gérée par l'ensemble des partis politiques issus des élections de 1977. Alors d'abord, quelques petits détails. À ces élections de 1977, les partis républicains n'avaient pas le droit de se présenter. On a toujours présenté ça comme ça. Ah bah oui, c'est l'ouverture de la démocratie. Oui, mais si on ouvre la démocratie et la première chose que l'on fait, c'est d'interdire les partis républicains, c'est un petit peu embêtant. Le fait est qu'aucun parti républicain n'a pu se présenter. Même en Catalogne, le parti historique Esquerra Republicana de Catalunya, gauche républicaine de Catalogne, n'a pas pu se présenter. C'était la gauche de Catalogne. Esquerra Catalana, républicaine, pas question. Mais tout ceci ne serait, bon, logique si on veut, pour éviter de fâcher les gens, on passe en douceur d'un régime dictatorial, je répète, en douceur, mais non sans violence, d'un régime dictatorial à une démocratie telle qu'on l'entend en Occident, pas à une république, mais à une démocratie avec un roi, etc. Ça peut s'entendre. Mais il y a eu, en même temps, une mesure qui a été prise, c'est une loi d'amnistie. Alors la loi d'amnistie, elle amnistiait les ouvriers qui avaient fait grève 6 mois avant et qui avaient été arrêtés. Cette amnistie, elle touchait les Basques de l'ETA, elle touchait des gens qui avaient été emprisonnés par le régime franquiste. Mais elle touchait aussi tous les tortionnaires de l'époque franquiste, tous les assassins de l'époque franquiste. Depuis cette date, il est interdit de demander des comptes à qui que ce soit des crimes réalisés pendant 40 ans de dictature. C'est quand même fort. Et ce que fait Sergi Casero Nieto dans son œuvre, qu'il appelle plutôt performance qu'autre chose, c'est d'explorer le pourquoi du silence accablant d'aujourd'hui. Et cette idée d'un homme jeune, c'est d'interroger sa grand-mère. Il interroge sa grand-mère. Alors, c'est tout un dispositif scénique avec des jeux de lumière, etc. Il interroge sa grand-mère qui ne répond pas, qui n'a rien à dire sur cette histoire. Il ne faut pas en parler de ça. C'est rouvrir de vieilles plaies. Il ne faut pas en parler. Silence. Et il se souvient, ce jeune homme d'aujourd'hui, que quand il était tout petit, dans un tiroir de la maison de sa grand-mère, il avait trouvé une médaille. Et cette médaille, c'était un joug et des flèches, c'est-à-dire le symbole de la phalange du parti fasciste espagnol. Que réfléchit alors le jeune homme d'aujourd'hui ? Eh bien que peut-être son grand-père a été mêlé à de très sales histoires, puisque la présence de cette médaille laisserait entendre qu'il était, lui, dans le parti fasciste. Mais le jeune homme d'aujourd'hui interroge aussi sa mère. Sa mère qui était, nous dit-il, dans le parti ouvrier. Alors le parti ouvrier, il y a deux possibilités en Espagne, c'est soit le parti communiste, parti ouvrier presque par essence, soit le parti ouvrier, parti socialiste ouvrier espagnol, qui est le parti socialiste donc espagnol. Elle est dans un de ces deux partis. Et il lui demande, mais pourquoi tu m'as rien dit sur ce qui s'est passé, ce passage, la bizarre vers la monarchie, pourquoi un roi en Espagne ? Elle non plus n'a rien à dire. Et c'est ça, le traumatisme national en Espagne. C'est le fait qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de la guerre civile, on ne peut pas parler de la révolution, on ne peut en Espagne parler de rien de cette période. Et au cours de cette performance, de ce spectacle, il présente une double page du traitement dans un livre de collège de la guerre civile et le franquisme, une double page où on ne dit rien. Tout sont des euphémismes. Le mot dictateur n'est pas employé. C'est un régime autoritaire. On ne parle pas du rôle de l'Église, pas un mot sur le rôle de l'Église, qui a été un des deux piliers avec l'armée du régime franquiste. Rien. On ne parle pas des dizaines et des dizaines de milliers de personnes jetées dans des fosses communes dont les gens ne savent pas où ils sont. Encore aujourd'hui, on essaye d'exhumer des gens, on fait des expertises ADN pour savoir si c'est un tel ou tel autre. Des fosses communes qu'il y a partout en Espagne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors comme c'est vraiment une performance tout à fait extraordinaire qui dure 1h15 et qui a, comme dispositif scénique, deux objets qui sont sur scène, à part des chaises, il y a deux objets sur scène. Il y a un projecteur de diapositif vers l'avant, et il y a un rétroprojecteur, c'est assez symbolique, mais qui ne rétroprojette pas grand-chose, mais qui serve d'expression à la réflexion. Parce que si on doit dire quelque chose de cette performance, c'est que Il y a du texte, bien sûr, le texte que dit Sergi Casero, mais il y a surtout des très grandes plages de silence, où lui bricole des petites choses sur scène, etc. Et c'est assez formidable de voir comment on peut faire une forme de théâtre, si on veut, théâtre du silence, où on dit des choses très fortes, et au lieu d'enchaîner sur d'autres choses très fortes, on reste en silence. Et pendant ce temps-là, c'est dans la tête que ça se passe. Eh bien, on va faire une dernière pause.
A la huelga, compañeros, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y la besana, desde el torno y el telar, irán los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Yo por ellos, madre, y ellos por mí.
Radio Libertaire 89.4, micro-ondes 94, l'émission de la CNT du Val-de-Marne. Au cours de cette émission, nous avons entendu d'abord la Brigada Flores Magón, Continente Olvidado, puis les Cowboys Fringants, puis Jamais, la Compagnie Jolie Môme, la Lutte en Chantant. On a écouté aussi la Magnovchina en Espéranto, puis 1936, Un Pueblo en Armas, et puis là, à l'instant, à la Huelga, chanté par Lenny Escudero. Bien, on avait dit qu'on terminerait l'émission par des livres, mais on va aller très très vite. Deux livres de publication récente. D'abord par l'association du 24 août 1944, Français libres et républicains espagnols contre le nazisme, un énorme pavé qui reprend les carnets du capitaine Raymond Drone. C'est des carnets de marche, des opérations militaires entre 1940 et 1945. Raymond Drone, qui était le capitaine qui commandait la 9e compagnie de la division de Leclerc, la 9e, dans laquelle il y avait beaucoup de républicains espagnols. Il y avait d'ailleurs pratiquement que des républicains espagnols et de nombreux membres de la CNT parmi eux. Et comme on en a connu quelques-uns, et comme a choisi le roi, on a eu le bonheur durant des années d'avoir comme cordonnier un membre de la Nouvelle, un des libérateurs de Paris qui a été photographié sur la place de l'Hôtel de Ville à côté de Raymond Drone le 25 août 1944, eh bien, c'est très sympathique de parler de ce livre qui contient en plus tout un complément autour de la mémoire précisément. Comment la mémoire a été perdue et comment elle s'est retrouvée autour de cette idée de la 9e compagnie de la 2e division blindée. L'autre livre qui vient de sortir, c'est le livre de la déportation, Choisis le roi, 1940-1945. Alors, c'est un livre tout à fait extraordinaire, parce qu'il reprend un par un tous les déportés liés à Choisis le roi. C'est tout à fait extraordinaire. Déportés pour raisons raciales, des juifs, mais aussi des gens du voyage, parce que évidemment pour les nazis, tout ce qui n'était pas bien blond et aux yeux bleus, comme Hitler, hein, c'est bien connu, il était blond aux yeux bleus, était susceptible d'être déporté, mais il y a un nombre considérable de personnages avec beaucoup de détails. C'est tout à fait... Alors, il y en a un là qu'on peut citer, c'est par exemple Maurice Fontès. Maurice Fontès était ajusteur. Il était marié, il avait une fille née en 1933. En 1936, il part... en 1938 plutôt, il part comme volontaire dans les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. Puis, il participe donc à la bataille de l'Ebre. Hein. Il est grièvement blessé le 20 juillet 1938. Il est amputé de la jambe gauche, réformé et rapatrié. Mais lui, il est arrêté le 24 décembre 1941 à son domicile. Il est communiste, c'est un résistant. Il est arrêté par les autorités d'occupation. Il est déclaré apte au travail et il est envoyé à Auschwitz, où évidemment... Il va être immatriculé 45 550. Le nombre de détails qu'il y a, c'est effarant. Et donc, il décède à Auschwitz-Birkenau le 8 octobre 1942 à 35 ans. Et ce qui est formidable, c'est que domicilié 32 avenue Anatole-France a choisi le roi. C'est-à-dire que toutes ces personnes, on a l'adresse à laquelle ils vivaient. A choisi le roi. C'est donc un travail de mémoire tout à fait extraordinaire. qui est fait par une deux travailleurs acharnés d'une association de Choisy-le-Roi, avec laquelle la CNT collabore beaucoup, on fait des événements ensemble, etc. Et quelque part, on y est un peu attaché, d'autant que parmi ces déportés de Choisy-le-Roi ou liés à Choisy-le-Roi, il y a pas mal d'Espagnols quand même. Sur ce, cette émission se termine. La prochaine, ce sera le 31 août à 15h30, à la même heure. Nous sommes sur Radio Libertaire 89.4. C'est la fin de l'émission Micro-ondes 94. La CNT Val-de-Marne vous dit, eh bien, au mois prochain. Ou un peu plus.
Everybody's happy, so it seems. Then when our day's work's done, we file in one by one and thank the Lord for one more mess of beans. Oh, those beans, bacon and gravy, they almost drive me crazy. I eat them till I see them in my dreams. When I wake up in the morning and another day is dawning, I know I'll have another mess of beans. Substitute sow bellies, for which we work.